ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, donc Radio Béton 93.6, notre radio favorite et peut-être votre émission favorite aussi, je ne sais pas. Vous êtes libre ce soir. Alors ce jour en tout cas, on va parler de logiciels et de trois logiciels différents. Mais alors c'est des logiciels libres. Hein, on va pas changer de politique, de licence, mais par contre c'est pas les logiciels les plus connus. Souvent on entend parler de Firefox, on entend parler de
OpenOffice,
VLC aussi pas mal. Alors là on a pris des logiciels plus méconnus. C'est Emmanuel qui va faire l'essentiel de l'émission parce que moi je vais être un petit peu occupé, je suis désolé. Oui. Et donc on va commencer avec Thunderbird qui vient de sortir en version 3.
Disons, c'est pas qu'il vient de sortir en version 3, c'est qu'il est sorti en décembre en version 3.
Ah, je suis un peu à la ramasse, hein,
ouais,
désolé.
Moi aussi, j'ai attendu 4 mois avant d'essayer la nouvelle version. Mais en tout cas, Thunderbird, c'est ce qu'on appelle un client mail, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de lire les mails, d'en envoyer. C'est un petit peu une concurrence par rapport aux mails qui s'appellent des webmails, c'est-à-dire auxquels vous accédez par le web.
Par le navigateur web, alors soit Firefox, soit Internet Explorer, enfin où on a directement le service en ligne. Là, ça permet de stocker réellement les mails sur l'ordinateur, voilà. De les retrouver, etc. De les avoir hors ligne aussi. Quand on n'est pas sur Internet, on les retrouve.
Il faut dire que ce genre d'outils ont tendance à être un peu délaissés au profit des webmails. Par exemple, Gmail, c'est super sympa, c'est beau, mais ça a aussi ses inconvénients. Et donc, Thunderbird 3, mine de rien, même si les mails... en client sont un petit peu délaissés. Il n'empêche qu'il y a pas mal de développement qui s'est fait là-dessus. Donc, par exemple, ce qu'on avait remarqué il y a plusieurs années avec Firefox, qui était assez novateur, mais qui est complètement banal aujourd'hui, c'est les onglets. C'est-à-dire qu'on a profité de cette possibilité pour afficher plusieurs choses dans la même fenêtre. Et c'est assez pratique, au niveau des mails, de pouvoir les ouvrir dans des onglets. Disons que ça donne pas mal de possibilités, surtout on peut voir son mail en pleine fenêtre, ce qui est assez agréable par rapport au petit bout qui restait en bas du logiciel. Et surtout, il y a un truc qui est super et complètement révolutionnaire, c'est la recherche dans ses messages. Parmi les gens avec lesquels je corresponds, par exemple, si je tape Pierre, ça m'affiche par exemple mon comparse, Pierre ici.
C'est moi.
Voilà. Et ce qui est aussi pratique, c'est que d'abord, la recherche est beaucoup plus rapide. Maintenant, ils ont carrément changé le système. C'est capable de chercher un petit peu comme Google cherche dans l'Internet, tout simplement. Après, ce qui est amusant aussi, je sais pas si tu remarques là, c'est un histogramme avec le nombre de messages envoyés ou reçus par Pierre.
D'accord, donc on peut voir qu'en 2010, j'ai écrit beaucoup plus de mails à Emmanuel qu'en 2009. Donc voilà, c'est super intéressant. Non, c'est vrai, c'est assez marrant à voir, c'est assez joli, c'est assez bien fait, ça fait un peu statistique.
Ouais.
Et c'est très joli. Moi, je reconnais que l'avantage de Thunderbird, c'est qu'on a directement les mails sur son ordinateur. Le jour où on n'en a plus Internet ou alors on veut changer de webmail, c'est très facile. On configure, on peut avoir plusieurs comptes mail qui se redirigent sur ce Thunderbird. La seule difficulté, un petit peu, c'est de le configurer.
Alors, il y a des histoires de pop-up. C'est même plus une question de configuration. Parce que dès qu'on l'installe, eh ben, il va nous poser trois questions. Quelle est votre adresse? Quel est votre nom? Et quel est votre mot de passe? Et c'est tout.
D'accord, donc ils ont progressé aussi là-dedans. Ouais. Je découvre, hein, Emmanuel, c'est le spécialiste. Oui. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que si vous avez un problème en l'installant, faut pas hésiter à venir aux permanences d'Adeti,
ouais,
qui ont toujours lieu le mardi soir à Léo Lagrange, si je ne me trompe
oui,
pas.
C'est bien ça.
Voilà, en tout cas, ça peut vous montrer un outil performant. Alors, je pense
Oui, sinon, il y a quand même quelque chose qui sont très pratiques avec Firefox et qu'on retrouve aussi dans Thunderbird, parce que Thunderbird, c'est un logiciel créé par Mozilla, la même fondation que Firefox, ne l'oublions pas. D'abord, c'est les thèmes, c'est-à-dire que maintenant, on peut mettre des thèmes aussi facilement que dans Firefox. Bon, c'est pour ceux qui aiment bien la personnalisation et avoir quelque chose de beau sur l'écran. Et puis, ce qu'il y a aussi qui est très pratique, c'est les modules complémentaires, un peu à la manière de Firefox, qui permettent d'étendre pas mal son outil.
Les fonctionnalités des petits plugins ouais, qui permettent de rajouter des choses. Alors soit c'est des choses comme des fonctionnalités de recherche, de sélection de mails. Ça peut aussi être un outil de cryptage de mails ou je ne sais quoi. Enfin, il y a énormément de plugins qui existent, divers et variés.
Ouais, il n'y en a pas autant que dans Firefox, mais ça permet de faire pas mal de choses avec cet outil-là. Autre outil qui est à destination des photographes. Comment tu fais pour combler le fait qu'un appareil photo a un champ de vision extrêmement étroit ?
Bon, ça, moi, je suis pas photographe. Hein.
Bah, moi non plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain, il voit avec un champ de vision très large, qui est largement supérieur à 200 degrés. L'idée, c'est de faire aussi des photos qui ont un champ de vision très large, sans acheter forcément un appareil qui serait panoramique et ultra cher, ultra technologique, mais c'est d'assembler plusieurs petites photos qu'on a prises avec un appareil photo tout bête et d'en faire une vue panoramique à 360 degrés si vous voulez. Le principe de cet appareil-là, de ce logiciel-là, c'est que vous prenez plusieurs photos de la même scène. Ces photos doivent être des zones voisines et qui se confondent un peu pour qu'après le logiciel puisse les recouper. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher des points intéressants dans les photos. Après, il essaie de faire le rapprochement entre ces différents points d'intérêt. Et à partir de ça, il peut réassembler l'image telle qu'elle était dans la réalité.
Alors effectivement, moi, ce que je vois du Jing, c'est que ça a l'air assez complet, avec un assistant déjà pour que ce soit simple. Alors c'est tout en interface graphique, il y a un beau menu. Il y a différents types
d'images.
Ouais, je regarde, on peut avoir différents types d'objectifs, différents types d'appareils, avec beaucoup d'options que le spécialiste comprendra mieux que moi, le barillet, la distorsion, etc.
Il faut savoir, c'est que c'est à la fois un outil très expert pour les bons photographes et en même temps quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que si là tu te contentes de charger quelques images, tu choisis des images, et ben lui, il va les recoller ensemble, il va te proposer une vue et à partir de cette vue, tu enregistres l'image reconstituée. Après, c'est clair qu'il y a des possibilités pour faire différents effets de projection. Il y a des projections qui sont planes. Où en fait il va considérer que tout est plat, ou alors il va y avoir des projections cylindriques qui sont peut-être un peu plus, avec un effet un peu plus plongeant, voilà, plus réaliste. En tout cas, c'est un outil qu'on peut conseiller à la fois aux photographes experts et aux débutants qui veulent juste recoller ces 2-3 photos ensemble pour obtenir des effets assez intéressants. D'ailleurs, sur Wikimedia Commons, on vous filera le lien sur notre blog. VELCS.info, vous pourrez voir des exemples de photos qui ont été faites avec Ugine. Et d'ailleurs, sur le site d'Ugine, il y a plusieurs exemples d'utilisation de cet outil-là. C'est des petits tutoriels, voilà. On reconstitue tout un panorama, voilà. Il vous explique tout ça point par point.
Alors, c'est l'heure de la petite pause, je crois. On a déjà pas mal parlé. On va mettre du rock ce coup-ci. Hein. Ça fait longtemps, un peu de rock, ça nous fera du bien. C'est l'artiste, c'est Boss, En attendant d'aller sur Mars, le nom de la chanson, c'est Une charogne.
Et j'en profite pour poser une devinette à Pierre.
Ah, une petite devinette.
Il va deviner, et vous aussi, vous pouvez deviner, qui est l'auteur du texte.
Bah, on va l'écouter, puis on verra. Hein.
Ouais.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme.
Ce beau matin d'été si doux.
Un sentier, une charogne infâme.
Sur un lit semé de cailloux.
Des jambes en l'air, comme une femme lubrique.
Brûlante sur les poivrons.
Ouvrée d'une façon nonchalante et cynique.
Son ventre plein d'exhalaison.
Le soleil rayonnait sur cette pourriture. Comme un fin de la cuir à point.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
donc c'était Boss sur Vous êtes libre ce soir. Le morceau était sous licence by NCSA. Alors pour la petite devinette d'Emmanuel, de qui peut bien être le texte, on n'a pas triché déjà. Alors peut-être que je vais me tromper en direct. Moi, je dirais bien Guillaume Apollinaire.
Ah, t'en étais pas très très loin, mais c'est pas vraiment ça.
Zut.
Ah, désolé, c'est Baudelaire.
Ah bah d'accord, bah, j'aurais pu hein, la prochaine fois peut-être.
Mais en tout cas c'est assez pertinent ce que tu proposes. En tout cas c'est bien parce que c'est un poème qui est maintenant dans le domaine public et maintenant tout le monde peut en profiter et créer d'autres œuvres à partir de ça.
Le réutiliser, bah très bien.
Alors puisqu'on en était sur des choses un peu lugubres à parler de cadavres avec ce poème du 19e siècle, on va peut-être passer un peu au cadavre exquis. Alors un cadavre exquis, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu littéraire inventé dans les années 50 par des surréalistes, dont Prévert, et qui s'était amusé à créer des phrases un petit peu déjantées, où là, il y avait plusieurs personnes qui prenaient chacun un bout de mots, ils collaient ça, tout ça ensemble. Bien sûr, c'était complètement aléatoire et sans se concerter, et au final, ça faisait une phrase aléatoire. Et justement, la première phrase qui a été créée selon ce procédé, c'était « Le cadavre exquis boira le vin nouveau », d'où le nom et l'expression. Et justement, maintenant qu'on a des outils informatiques super perfectionnés et tout ça, on peut aussi faire des phrases aléatoires et des textes sans intervention humaine. Et justement, c'est le but de l'outil que je vous présente là. Il s'appelle Charabia, vous pourrez le trouver sur charabien.net. Et justement, Charabia, c'est un générateur de texte qui vous permet de définir la manière dont le texte sera généré. C'est un petit peu un graphe que vous modifiez avec des petits bouts de mots par-ci par-là qui s'enchaînent de telle ou telle manière. C'est complètement graphique. Et après, vous pouvez générer des phrases aléatoires. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens qui se sont amusés avec cet outil-là et qui après vous distribuent leur fichier. Et là, par exemple, j'ai sous les yeux un générateur de dissertation philosophique où là, on va parler de super concepts. Sauf que ça paraît très très crédible. Forcément, la philosophie, c'est un petit peu compliqué à la base. Ce texte-là commence par « Prémisse de la consubstantialité universelle, on ne peut s'étonner de voir Kant critiquer leur ontologisme empirique. Il est alors évident qu'il rejette la description transcendantale de la consubstantialité. » Pardon, j'ai moi-même du mal à prononcer. Mais il n'empêche que bon, ce logiciel-là est complètement futile, donc à mon avis complètement indispensable. Comme ça, vous pourrez voir pas mal de petits générateurs, par exemple. Il y a les insultes du capitaine Haddock, l'évangile aléatoire, foire. Et cet outil-là, c'est un logiciel libre publié sous la licence GNU/GPL. Donc sur charabien.net, vous pourrez retrouver plein de textes aléatoires et complètement déjantés. Pour finir sur les logiciels libres, rappelez aussi quelque chose d'important. Il y a l'annuaire de Framasoft, où justement vous pourrez trouver des logiciels, tous libres, et qui peuvent répondre à votre besoin. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit des trucs complètement futiles, du genre des textes aléatoires ou des écrans de veille. Vous y retrouverez à peu près tout ce dont vous avez besoin. C'est un site qui est maintenu par une association, Framasoft, dont on a invité le permanent il n'y a pas si longtemps que ça. Et celui-ci comparait justement Framasoft aux pages jaunes du logiciel libre. Alors, pages jaunes toujours, mais au niveau de la musique en libre diffusion. Alors, où est-ce qu'on trouve la musique qu'on vous passe dans l'émission ? Eh bien, c'est bien simple, on a l'habitude d'aller sur Jamendo, qui est une grande base de données d'albums en libre diffusion. Je crois qu'il y en a un peu plus de 31 000 à l'heure actuelle. Et c'est là qu'on peut trouver de la musique que vous pouvez télécharger gratuitement, que vous pouvez aussi partager avec vos amis et aussi partager sur la radio. Voilà. Et donc, on va vous souhaiter un bon retour à la réalité et à la semaine prochaine dans Vous êtes libre ce soir.